Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Idées en évolution. Aujourd'hui, nous accueillons Jérôme Blanchet-Gravel, rédacteur en chef chez Libre Média. Bonjour, monsieur Blanchet-Gravel.
Bonjour, merci de l'invitation.
Avec plaisir. Jérôme Blanchet-Gravel, vous êtes en premier lieu le rédacteur en chef et propriétaire de Libre Média. Je crois qu'on peut vous qualifier de d'essayiste et journaliste plus globalement. Vous avez récemment publié « Un Québécois à Mexico » à l'Harmattan en 2021 et « Crise sanitaire et régime sanitariste » chez Liber en 2022 et « La face cachée du multiculturalisme » en 2018. En fait, il y a trois autres livres que j'ai recensés. « Le retour du bon sauvage, la matrice religieuse et l'écologisme » Boréal 2015, « L'islam dévoilé, dialogue nord-sud » 2015... Le nouveau triangle amoureux gauche, islam et multiculturalisme, accent grave en 2014. Est-ce qu'il m'en manque un?
Je crois pas, non.
vous avez publié sur différentes plateformes Causeur, Conflit, Figaro, La Presse, Le Devoir. Est-ce qu'il m'en manque?
Non, j'ai publié quelques textes dans L'Impartial au Mexique.
En espagnol, oui, tout à fait.
Mais ça fait le tour. À Causeur, j'ai été collaborateur régulier. Je le suis encore depuis plusieurs années. Là, c'est un de mes meilleurs, si je peux dire. Ouais, tu sais, un anglicisme d'entrée de jeu.
Ouais. Je reviens sur Hélène Partial. Bon, vous êtes parlé l'espagnol à un niveau très élevé. Qu'est-ce qui vous a amené vers l'espagnol?
Prends femme, prends pays, hein, vous savez. Non, ben, j'ai toujours cultivé une sorte d'amour, on peut dire, pour l'Amérique latine, pour le monde hispanophone en général. Donc, je suis de nature hispanophile et depuis plusieurs années maintenant, je côtoie, si je peux dire, le monde hispanophone. Et il se trouve que ma femme est mexicaine, donc plusieurs gens le savent, donc ça aide. Donc, j'ai habité quand même 4 ans à Mexico, la ville de Mexico. Au Mexique. Donc, c'est un peu ce que je raconte dans le livre. Le livre est basé sur ce parcours un peu entre deux pays. Hein, donc, cette espèce de... Par effet de contraste, j'analyse l'état de la société québécoise, puis la société mexicaine aussi. Mais oui, ça fait maintenant quoi, 10 ans que je dois parler espagnol, je pense, à peu près. J'ai 34 ans. Mais c'est très enrichissant. Oui, j'ai 2 axes là, essentiellement. Là, j'ai la France puis l'Amérique latine, en gros, si je résume. Donc, c'est les deux axes sur lesquels je me promène, si je peux dire. Évidemment, il y a le Québec. On va en parler, je pense, un peu plus tard dans l'entrevue. Mais pour répondre à votre question qui était pourquoi? Pourquoi, c'est ça, l'espagnol?
Qu'est-ce que vous avez mené à l'espagnol initialement, oui?
Ouais, ben, un attrait, c'est-à-dire un goût. Hein, une envie de connaître ce monde-là et qui est très fort, hein, qui est très sous-estimé aussi. Je le dis souvent, 50 millions d'hispanophones aux États-Unis. L'espagnol est un véritable tsunami culturel qui est nettement négligé au Québec. Par la force des choses, maintenant, on commence à s'en rendre compte avec les pénuries en tout genre. Donc, il y a de plus en plus de travailleurs temporaires. Mmh. Donc, on est amené, bon, à Montréal, c'est un peu différent. Ça fait longtemps que les hispanophones. Là. Mais maintenant, c'est à un niveau supérieur en termes d'immigration. Donc, c'est assez fascinant d'observer à quel point l'espagnol peut concurrencer l'anglais aux États-Unis de manière très organique, de manière très spontanée, décomplexée. C'est assez fou. On n'y échappera pas. Et c'est un monde en évolution. C'est un monde plein d'idées aussi. C'est un monde vivant qui a tous ses auteurs, ses écrivains, ses chroniqueurs. C'est un énorme marché aussi, si on parle en termes économiques. L'Amérique latine, le monde hispanophone, c'est combien de centaines de millions de personnes? Je pense qu'on parle de 500 millions au complet. Là. Bon, j'exagère peut-être un peu, mais c'est un monde de débat. C'est un monde de. Je pense qu'on aurait intérêt à faire plus de ponts entre le monde hispanophone, celui anglophone, celui francophone. Je pense qu'il manque encore quelques passerelles. Puis j'aime contribuer modestement à créer ces ponts. C'est-à-dire que j'invite des hispanophones sur des tribunes françaises, ben, c'est-à-dire je rapporte leur point de vue. Ça m'est arrivé de faire des entrevues, des rapports en français, mm-hmm. à causeur notamment. Parler un peu de ce qui se passe aussi à droite. À droite, il y a beaucoup de chroniqueurs vraiment de droite et de gauche. C'est pas la même gauche, c'est pas la même droite. Mais c'est intéressant parce que ça nous fait aussi comprendre que la droite au Québec, c'est une droite aussi qui est évidemment presque inexistante, en fait. Là. Donc, ça fait rigoler parce que quand on côtoie ce qui est la véritable droite en Amérique latine, on comprend que la droite au Québec, là, c'est l'extrême-gauche à côté. Là. Donc, enfin, ça nous permet de sortir un peu de la bulle là, du Québec, puis francophone en général, et de... C'est ça, de prendre la mesure des phénomènes sociaux de autrement. Là.
C'est vrai qu'au Québec, on se tourne vers les États-Unis pour des raisons géographiques évidentes et culturelles, ou la France. Il y a toujours eu des liens, par contre, avec l'Amérique latine. On peut penser aux liens... Bon, on parlait de gauche-droite, mais certains... On peut parler aux Félixistes qui se sont retrouvés à Cuba, par exemple.
Ben oui.
mais il y a eu d'autres mouvements là, de gauche qui étaient très populaires au Québec venant de l'Amérique latine, je veux dire. Mais c'est vrai qu'au Québec, bon, pour des raisons évidentes, là, on se tourne vers la France et les États-Unis en premier, mais il y a des ponts à créer.
De moins en moins de la France, malheureusement, je pense.
Ah oui, pourquoi?
Ben, je pense que les intellectuels vont moins en France. Christian Rioux, que je connais, que nos auditeurs connaissent sans doute.
Journaliste au Devoir.
Oui, évidemment, le correspondant du Devoir à Paris, Christian Rioux, qui déplore en fait chaque année, lui, je pense que ça fait 30 ans qu'il fait ça, chaque année, il voit que de moins en moins de Québécois qui vont à Paris là, pour visiter peut-être, mais pour s'engager dans la vie intellectuelle, dans la vie comme telle, la vie française. Il y en a encore, évidemment, mais je pense que les jeunes générations se sont plus tournées vers Londres et New York que vers Paris. Mm-hmm. C'est correct d'être tourné vers Londres et New York, et Los Angeles, puis il y en a plusieurs, là, des villes anglophones, vers Sydney peut-être même. Mm-hmm. Mais je pense que oui, nos jeunes vont plus en Australie, presque en France aujourd'hui. C'est assez incroyable. Donc, on aurait intérêt aussi à recréer véritablement des passerelles intellectuelles, culturelles, au-delà un peu des relations folkloriques entre la France et le Québec. Là. Et, c'est un gros manque. Donc, c'est symptomatique, évidemment, de l'américanisation, de l'anglicisation du Québec. Là. C'est pas quelque chose de nouveau. Je ne pense pas apprendre rien à personne aujourd'hui en disant ça. Là. Mais que nos jeunes soient plus tournés vers Sydney que vers Paris est assez inquiétant d'une certaine façon. Là. C'est, parce que quand tu ne comprends pas que Paris est la capitale de la francophonie, tu n'as rien compris dans la vie. Là. C'est pas plus compliqué.
C'est la base, oui.
Ben, tu sais, certaines droites qui plutôt anglophiles, il faut le dire aussi au Québec, qui voudraient se passer complètement de la France, qui ont la ringardise finalement. Notre complexe d'infériorité s'est presque transformé en complexe de supériorité. Là. On est nord-américain, les Français, bon, ils sont un peu ringards, ils sont un peu dépassés. C'est vrai que on est nord-américain, ça vient qu'il y a un certain dynamisme économique aussi. C'est vrai que les Français sont quand même des fois sur des méthodes, disons, plus anciennes. Mais de là, regarder de haut la France parce qu'on sait nord-américain, il y a ça quand même. Il y a une posture qui ressemble à ça. Là. On est plus complexé, c'est bon, envers les Français, mais si ça vient avec une sorte de rejet et... de vision folklorisante de la France, je trouve ça assez dommage.
La France peut paraître plus hermétique, plus difficile à pénétrer, je peux dire, que le monde anglo-saxon américain. Et donc, j'ai l'impression, encore une fois, c'est très personnel, mais que les Québécois, les jeunes Québécois là, qui veulent monter, disons, dans la sphère intellectuelle et même des affaires, et surtout des affaires, vont voir le monde anglo-saxon comme étant plus facilement atteignable, dans lequel se trouve, disons, une espèce de... Il n'y a pas de moule. Tandis qu'en France, on va en France, la première chose pour y avoir étudié et travaillé, il faut se fondre dans le moule. Après, les portes s'ouvrent, mais au départ, c'est vrai que c'est vraiment pas l'univers anglo-saxon. On entre dans un univers qui demande certaines choses de nous au lieu de l'inverse. On entre dans le monde anglo-saxon. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de code, qu'il n'y a pas de ligne à suivre. Il y en a certaines, mais c'est beaucoup moins strict. Donc, il y a peut-être cet aspect-là aussi là, qui fait que notre américanisation de nos esprits nous mène vers ce qui semble le plus facile, tout simplement.
Mm-hmm. C'est pas un ou l'autre, hein. C'est pas pour, pour dire qu'il faut rester dans le monde francophone uniquement. Au contraire, là, moi, je suis dans le monde francophone, monde hispanophone, peut-être un jour le monde anglophone, je sais pas. C'est pas un contre l'autre. C'est pas ça, c'est pas une logique manichéenne. Mais je pense que non, il y a un déclin. Il y a un déclin du Québec en France. Et il faudrait.
Ça paraît moins en ce moment, non? Avec la frison de Bocoté en particulier.
Oui, mais il y a ça, mais je veux dire, c'est. Bocoté fait pas à lui seul. Je veux dire, c'est pas à lui seul qui va reconstruire les liens entre le Québec et la France. Là, on s'entend, là, sa présence est fort respectable et tout ça. Mais je veux dire, Paris est une grande ville. Il y a de la place pour beaucoup de personnes. CNews, etc., est quand même assez niché. Malgré tout, c'est beaucoup la droite, un peu la droite Figaro. C'est un milieu assez. C'est niché, là, c'est-à-dire que bon, que ses particularités, etc. Donc, ça prend aussi des gens de gauche en France, des Québécois, pas juste des droites, des gens de droite.
La gauche québécoise s'inspire de la gauche américaine principalement, j'ai l'impression.
La gauche est très américanisée, on le voit dans le Devoir. C'est pas juste une affaire de droite ni de politique, là, selon je parle. T'sais, oui, on a des écrivains qui, de temps en temps, il y en a quand même un certain nombre. Si on voit la librairie du Québec à Paris, les écrivains québécois passent régulièrement là-bas. Faut pas exagérer, je dis pas que c'est zéro. Là. Je dis qu'il y a un déclin. C'est-à-dire que je pense que ça peut être amélioré. Donc oui, puis il y a eu le fameux écrivain là, cette année qui a eu...
Kevin Lambert.
Ouais, c'est ça. Donc il y en a toujours qui se ramassent dans des, avec des prix là, dans l'Hexagone. Mais... Je pense que nos relations se sont détériorées et qu'elles relèvent fondamentalement un peu d'un regard assez folklorique. Je veux dire, moi, ça fait quand même 10-15 ans que je vais à Paris. Disons 10 ans de manière plus intensive. Là. Avant, j'étais plus jeune. J'avais quand même juste 34 ans. Mais au-delà du regard un peu, là, c'est ça, un peu pas bon sauvage, là, mais... c'est-à-dire que les Français s'intéressent quand même plus à l'Algérie qu'au Québec. Ça marche de deux côtés aussi, cette affaire-là. Là.
Des raisons différentes.
Et on aime bien dire le Québécois, mais le Québécois, dire, on connaît plus l'Algérien que le Québécois. Il ne faut pas se faire croire non plus que les Français s'intéressent au Québec à ce point-là. Oui, c'est bien d'être Québécois en France, mais c'est ça. Ça marche de deux côtés aussi. Puis les Français devraient aussi faire un effort pour peut-être dépasser un espèce de regard un peu pittoresque du Québec. Là, vraiment, tous les peuples ont des clichés sur les autres. Là. C'est le Mexicain, puis avec le sombrero, tout ça. Le Français de Béret, là, tu sais. Donc, ça marche de deux côtés aussi. Mais c'est ça. Il n'y a pas une effervescence forte... entre le Québec et la France actuellement. Là, moi, je ne sens pas ça. Je pense que c'est ça. Il faudrait travailler idéalement. Puis je ne dis pas qu'il faut mettre des subventions là-dessus. Là. je pense que la culture bureaucratique a ses limites. Puis, ils ont atteint une certaine décadence. Mais non, ça prend plus que Bocoté à Paris. C'est sûr que ça prend plus que ça.
Oui, tout à fait. Je dirais qu'il n'y a plus beaucoup de Français qui n'ont pas au moins une personne dans leur entourage, dans leur famille, qui ne vit pas au Québec, ou du moins qui a pas assez vers le Québec, que ce soit avec un permis vacances-travail ou quelque chose de similaire. On dirait que le Québec, maintenant, est vu un peu comme, bon, j'exagère en disant une terre d'asile, mais l'intérêt de la France pour le Québec est quasiment un échappatoire là, maintenant. J'ai l'impression, du moins de la part des Français, juste de la France, politiquement parlant, c'est différent, oui. Mais les Français eux-mêmes, je pense qu'on voit le Québec... comme étant le Canada, de un. On parle du Canada seulement, plus ou moins du Québec. Mais on voit la chose un peu comme un échappatoire là, pour sortir un peu de l'impasse français.
Quand on voit qu'il y a des Français qui émigrent au Québec pour devenir caissier à l'épicerie, on voit qu'il y a un déclin. Là. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose qui s'est passé en France. Normalement, dans un monde relativement normal... c'est les coloniaux qui veulent se rendre dans la métropole et non l'inverse. Donc, quand l'inverse se produit, c'est que s'est passé quelque chose. On n'imagine pas encore un exode d'Espagnol vers le Venezuela.
non, c'est vrai.
Ben, c'est peut-être certains des retraités, évidemment, là, qui, etc. Mais normalement, c'est de la colonie vers la métropole. Donc, puis en passant, c'est pas que je respecte le métier de caissier à l'épicerie, là, mais vous comprenez que ça veut dire que tu as du chômage en France. Là. Ça veut dire que si des gens sont prêts à venir faire des métiers au salaire minimum au Québec, alors qu'ils sont français, c'est qu'il y a eu beaucoup de chômage. C'est qu'économiquement, ça va pas assez, ça va pas très bien. C'est que le coût de la vie est trop élevé. Donc, il y a un déclin français. Il y a tout ce qu'on connaît, évidemment, que l'insécurité. Bon, évidemment, l'insécurité culturelle. Insécurité aussi au sens vraiment...
physique.
L'augmentation des crimes, ou du moins l'augmentation, ou du moins une perception l'augmentation d'une perception de la violence, là, c'est-à-dire que...
Ouais, le taux de criminalité est en hausse, je crois qu'on peut le dire. J'ai pas les chiffres en tête, mais ça me semble évident, là, d'après ce que je lis, du moins.
Il faut toujours se méfier des phénomènes médiatiques, mais oui, en gros, je pense qu'il y a plus de criminalité en France que dans les années 70, là. Donc, puis évidemment, la question du terrorisme, etc., qui a dû effrayer beaucoup de gens, avec raison. Donc, il y a des Français qui, soyons clairs, ne se sentent plus chez eux en France et qui décident de venir au Québec parce que le Québec sera un peu la France d'autrefois. Évidemment, il y a beaucoup, beaucoup de nuances parce que le Québec est évidemment très anglo-saxon. Mais il y a encore là, le Québec reste la porte d'entrée francophone en Amérique du Nord. Donc, Montréal est une sorte de banlieue new-yorkaise francophone, on peut dire, là, pour les Français, pour leur imaginaire. Donc, ça permet d'immigrer de manière un peu plus confortable. Là. C'est-à-dire, on reste un petit peu plus dans sa zone de confort. Donc, on entre dans le monde anglophone un peu par la francophonie. Et je pense que c'est un peu ça que... Mais si on parle d'autres Français, là, les Français qui migrent ici pour des raisons de travail, ça, je pense qu'ils seraient prêts à... la langue les favorise, là, mais disons qu'il faut y a des catégories là-dedans. T'sais, les Français qui migrent sur le plateau Mont-Royal... qui occupent des emplois bien rémunérés, c'est pas les Français qui migrent, évidemment, dans la région de Québec pour être caissier à l'épicerie. Là. On s'entend, là? Il faut faire quand même aussi des distinctions. Là.
Ben, je vous dirais qu'il y en a, des caissiers, des Français qui viennent travailler comme caissiers sur le plateau Mont-Royal. Là. C'est pas unique à la ville de Québec, mais on a la classe moyenne professionnelle dans la trentaine, quarantaine, là, qui décide de faire carrière au Québec. Et des plus jeunes qui passent par les emplois qu'on associe d'ailleurs à la jeunesse, là, comme caissier et autres.
Je vois des femmes de 50-60 ans françaises, immigrées, qui viennent s'installer au Québec pour occuper des emplois au salaire minimum. Des hommes aussi de cet âge-là. Des Français qui ont 60 ans, qui viennent deviennent commis de dépanneur à... Il s'est passé quelque chose en France, c'est clair. Ça, c'est vraiment symptomatique de quelque chose, là. Forcément. Là.
Oui, il y a quelque chose qui se passe, non, tout à fait. Peut-être un non-dit. Il y a un malaise profond, hein, qui n'est pas entièrement articulé de leur côté. Je me rappelle, là, c'est vraiment anecdotique ce que je vais dire, mais je faisais de la radio en France, à Rouen, en Normandie. Pendant les présidentielles de 2012, on avait reçu des candidats des deux côtés, là. Et le candidat du Parti socialiste à l'époque, je lui avais posé la question. En fait, je me rappelle plus des mots exacts, là, mais je lui avais fait la remarque. La France accueille quelques centaines de milliers d'immigrants qui sont relativement peu qualifiés chaque année. Donc, ils doivent gérer le problème que ceci représente. Et du même côté, les Français qualifiés formés par l'école française, formés par le système d'éducation français, des gens qui sont très qualifiés, eux quittent la France. Donc, vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes un peu forcé d'accepter une population relativement large, relativement peu qualifiée, et vos plus doués quittent pour les États-Unis, le Québec, ailleurs. Et la réponse m'avait un peu choqué, mais j'avais pas répondu à l'époque. J'avais comme pas eu le réflexe. Il m'avait dit, mais moi, que des Français quittent à l'étranger pour faire rayonner la France, ben, ça me convient entièrement. De toute évidence, les Français qui quittent la France ne le font pas pour faire rayonner la France. Ils le font en grande partie par manque d'occasion, par manque de stabilité économique ou de croissance économique.
Ils ont très, par contre, ils ont un esprit très, pas missionnaire, mais par contre, c'est probablement des peuples qui s'exportent le mieux, hein, d'une certaine façon. Si vous allez à Mexico, il y a peut-être 50 000 Français à Mexico. C'est fou. Les Français sont partout dans le monde. Par contre, ils ont gardé ça sans doute de la colonisation. Mais ça, encore là, je parle pas nécessairement de caissier. Il va falloir arrêter avec le caissier. On va avoir l'air d'impression. On pensait qu'on dénigre le métier. C'est pas ça du tout, là.
Le service à la clientèle.
C'est ça. Mais par exemple, à Mexico, c'est assez frappant de voir la communauté française très, très bien établie au Club français de Mexico. On sort des bouteilles de vin. C'est une communauté très bien établie. Puis ça, je pense qu'on pouvait le répéter dans plusieurs villes, jusqu'en Indochine. Les Français sont très internationaux. Et beaucoup plus que les Québécois, je pense. Après, les Québécois, on en découvre toujours un peu partout. Mais il faut comme les trouver. Hein, tu sais, à un moment donné, il faut comme se faire ça. Ils vont se cacher plus, les Québécois, que les Français qui s'organisent. Ça doit être vrai à Buenos Aires. Les Français sont partout. Et ça c'est quelque chose qui m'a toujours assez frappé. Je n'ai pas voyagé partout dans le monde, là. Mais les Français sont partout. Il y a toujours des Français quelque part. Donc, ça, c'est probablement...
Ce qui est une force aussi. Hein?
Pardon?
Ce qui est une force pour eux.
Oui, oui, sans doute. Mm-hmm. Oh, oui, non, c'est, ça dénote un trait de caractère. Et, évidemment, les Français sont très inquiets, sont très pessimistes pour leur pays en général, même voire très cyniques. Mais ils ont encore beaucoup de force. Là. Ce n'est pas un peuple à terre. Là. Il faudrait quand même aussi qu'ils fassent attention à ce pessimisme un peu exagéré. Même, on pourrait parler, certains parlent de déclinisme. Il y a une vision un peu apocalyptique quand même, partagée à droite beaucoup, de cette France qui, la chute française, là, tu sais, ça reste que la France, c'est-à-dire beaucoup d'atouts, il n'y a pas de raison que la France s'effondre complètement. Là, tu sais, c'est quand même fou les discours là, sur le déclin. Là. Oui, il y a un déclin. Moi, je parle aussi du déclin au Québec. Mais non, il y a encore beaucoup de raisons de se réjouir d'être français, franchement. Il ne faut pas exagérer. Puis, il faut arrêter avec ce cynisme un peu. Il y a une psychologie française très cynique, un peu alcoolique. Là, je fume des clopes, c'est fini, la vie. Puis bon, c'est bon, là.
Ouais, c'est à fait. Passons au Libre Média. Parlez-nous de Libre Média. Vous êtes rédacteur en chef et propriétaire. Quels sont les projets? Quel est le statut? Quelles sont vos ambitions? Qu'est-ce que Libre Média en termes de ligne éditoriale? On vous écoute.
Ouais, ben Libre Média a été fondé à peu près un petit peu moins que 2 ans. Au début, moi, j'étais pas propriétaire, donc j'étais engagé comme rédacteur en chef et finalement, la première direction m'a cédé graduellement, disons, le contrôle de cette entité-là, Libre Média. Donc, moi, ça fait à peu près maintenant 1 an et 1 mois que je suis directeur là, général de Libre Média. D'ailleurs, je porte un peu 2 chapeaux. Là. Idéalement, peut-être dégager, séparer les 2 chapeaux qui sont celui de DG et celui de directeur en chef. Et pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, on est très contents. Moi, je suis très satisfait là, du chemin parcouru en 2 ans. Puis, durant cette année-là où j'ai pris la direction, la chaîne YouTube est en pleine expansion. Les statistiques sont très bonnes. Évidemment, on aspire à engager plus de gens graduellement. C'est toujours des questions de budget. Donc, par contre, là, le défi qu'on a eu à l'automne, c'est le blocage de la page Facebook. Vous savez, avec CIP18, les contenus d'actualité canadiens ne sont plus accessibles sur Facebook et Instagram. Donc, ça fait diminuer notre circuit, notre trafic sur la plateforme de presse écrite. Parce que Libre Média, c'est essentiellement 2 choses. Libremedia.com avec un trait d'union et la chaîne YouTube. Hein. C'est comme les 2 pôles principaux, donc le pôle écrit et le pôle vidéo. Et donc, le blocage de la page Facebook avec CIP18 a fait diminuer, je l'avoue très, très sincèrement, là, en toute transparence, la circulation a diminué, mais ça aurait été très étonnant qu'il n'y ait pas d'impact. Sinon, ça veut dire que Facebook ça ne sert à rien finalement pour les médias, et c'est pas du tout ça. Donc, là, il faut graduellement un peu compenser, mais on travaille très fort à redynamiser, à utiliser d'autres canaux. Donc, on rappelle sur YouTube aux gens, ben là, vous regardez des vidéos, mais il y a aussi Libre Média où on fait de la presse écrite. Donc, c'est les 2, c'est complémentaire. Donc, il y a beaucoup de choses qui relèvent aussi du marketing digital. Hein. Vous savez, le recours à l'infolettre, toutes sortes de gadgets le monde du numérique nous offre plein d'outils pour promouvoir notre média. Donc, il s'agit de les utiliser de la meilleure façon, d'être habile, d'être talentueux dans ça. Non seulement il faut offrir des contenus de qualité, des articles de qualité, des reportages à l'international, des grandes entrevues, des entrevues avec des gens intéressants, donner la parole à ceux qui ne l'ont pas assez, mais il faut aussi être habile dans ce maniement des outils du numérique. Donc ça, c'est la partie que je connaissais moins. Moi, je ne suis pas ici du monde des affaires. Je suis vraiment un intellectuel là, au sens le plus stricto sensu. Donc, c'est aussi un apprentissage de mon côté. Mais ça se passe bien. Honnêtement, je suis très satisfait. Puis, on travaille énormément. Là. Vous-même, Philippe, écrivez régulièrement à Libre Média des analyses, surtout géopolitiques. Ils sont très appréciés. Donc, on a plein de collaborateurs réguliers de grande qualité. Puis non, il s'agit de continuer de travailler très fort. C'est extrêmement exigeant, là, ma femme pourrait vous le dire. Pour les gens qui m'imaginent sur la plage au Mexique, d'ailleurs, j'ai jamais été à la plage au Mexique. En passant, j'habitais à Mexico. Là, ça me fait toujours assez sourire. Là, c'est parce que maintenant, c'est une ville de 25 millions au Mexico. Peut-être comprendre que je ne suis pas à la plage. Parenthèse refermée.
On ne fait pas la différence entre le Club Med et le Mexique comme pays. On ne fait pas la différence entre le Club Med et le Mexique comme nation à part entière.
Ça, je n'en reviendrai jamais de ça. Écoute, le Mexique, tu habites 130 millions de personnes. C'est pas en Amérique du Nord, on est nord-américain. Je comprends. Donc, je comprends que culturellement, on s'imagine l'Amérique du Nord, c'est Canada et les États-Unis. Là. Mais géographiquement, le Mexique est en Amérique du Nord. Un pays de 130 millions de personnes. Mm-hmm. Vous comprenez que c'est pas négligeable. Là. On peut pas dire... si vous pensez que le Mexique, c'est la même chose que Cuba et la République dominicaine, vous n'avez qu'un gros, gros bout là, sur le continent. Un énorme bout. Donc on travaille énormément pour y revenir. Oui, à Libre Média, c'est vraiment... C'est très, très prenant. Mais graduellement, dans le fond, les projets, c'est de poursuivre sur notre lancée. Et d'avoir plus de ressources financières pour engager plus de monde et croître de manière organique sans péter le budget, pour le dire très clairement. Donc, c'est toujours des questions l'équilibre entre les revenus et ce qu'on peut offrir. Mais on tire le plus de jus de chaque raisin qu'on peut. Et ça va bien. Regardez, écoutez, semaine dernière, on a publié une entrevue avec Xavier Moreau, qui est un analyste géopolitique basé à Moscou. L'entrevue a passé le stade du 200 000 visionnements. Donc ça, c'est la première vidéo qu'on a lancée en 2024. Donc une vidéo qui va peut-être se rendre à 250 000. Donc disons qu'on est assez optimiste. On enregistre quand même des succès assez nets. Là. Puis même à Paris, je vous dirais que le mot s'est passé, que Libre Média existait et que ça allait probablement faire partie du paysage médiatique des médias alternatifs. Donc, on a pignon, pas sur rue à Paris, mais on fait des entrevues à Paris. Anne-Laure Bonnel, notre collaboratrice spécialisée dans les conflits, fait des entrevues dans son mini-studio à Paris avec plusieurs intervenants. Donc, on a vraiment déjà ce pôle, si on veut, français, et suisse et belge francophone et même africain francophone. Donc, quand on voit les statistiques sur YouTube, on a peut-être 70% de public non québécois. Ce qui n'est pas le cas sur la plateforme de presse écrite encore. Mais on a déjà une vocation francophone au sens large. Là. Libre Média, ce n'est pas que québécois. On peut presque dire que c'est franco-québécois, compte tenu aussi du fait qu'on a des collaborateurs français là-bas, des journalistes, des pigistes, des monteurs vidéo, etc. Là.
Oui, tout à fait. Passons à vos écrits. Un Québécois à Mexico, écrit sanitaire, régime sanitariste, publié presque coup sur coup, 2022-2021. Est-ce qu'il y avait un lien?
Pas exactement. C'est-à-dire que c'est deux registres complètement différents. Québécois à Mexico, c'est un récit. Donc, c'est une sorte de récit-essai, hein, si je peux dire, pas de roman-essai, là, parce que c'est autobiographique. Mais c'est une sorte d'essai-récit, là, un Québécois-Mexico. Donc, c'est sous une forme littéraire, finalement, plus littéraire, beaucoup. Alors que le collectif, qui est un ouvrage collectif, un cri sanitaire, régime sanitariste, c'est un livre plutôt à vocation pas universitaire, mais avec, disons, un angle plus théorique. Donc, mais le lien, évidemment, c'est que est survenue la crise sanitaire, personne ne le savait. Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur l'état du Québec, sur l'état de la société occidentale. Donc, ça a donné... Moi, quand j'ai commencé la rédaction d'un Québécois Mexico, de ce récit-là, la crise sanitaire n'était pas survenue encore. Donc, et quand c'est arrivé, là, ça a donné une couleur particulière au livre. Et là, c'est devenu vraiment intéressant. Parce que là, je raconte quand est arrivé les premiers confinements. J'étais en Colombie, j'en reviens à Mexico. Donc, il y a comme des péripéties, si je peux dire. Là, donc... Le rapatriement au Canada, les contrastes. Je reviens au Canada, c'est une société complètement figée. La société de surveillance policière, etc. Les couvre-feux. Donc là, le contraste culturel sur lequel je réfléchissais est devenu encore beaucoup plus fort avec la pandémie. Donc ça a rajouté 30-40 pages finalement au livre. Et c'est vraiment, je suis au Mexique, je reviens au Québec, je retourne... je passe par Paris, donc tu sais, le livre nous fait passer par 2-3 pays tout le temps. Là. D'un pays à l'autre, nous fait passer d'un pays à l'autre assez constamment, c'est-à-dire. Donc ça, c'est littéraire. Et le collectif, ben, c'est une douzaine d'auteurs qui se penchent chacun à leur manière sur la crise sanitaire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé, le biopouvoir. Donc, on a, par exemple, un texte de Julien... Garon Carrier qui, lui, parle du biopouvoir avec Michel Foucault. Moi, je parle de ce que j'appelle le sanitarisme, la peur de la mort. Claude Simard, lui, s'est penché sur le vocabulaire, dans les mots-clés qui ont été employés dans les grands médias donc pour instaurer une sorte de régime de propagande. Donc, Claude Simard, qui est le local directeur de l'ouvrage, qui est un linguiste de formation. Donc, il se penche vraiment sur le vocabulaire du sanitarisme. D'autres se sont penchés sur, bon, évidemment, la vaccination. Donc, c'est quand même deux livres complètement différents, mais qui abordent, oui, la question de ce que j'appelle le sanitarisme, puis de ce qui est arrivé pendant 2-3 ans et qui continue. On continue de subir toutes sortes de dommages collatéraux de cette gestion irresponsable, pas tout à fait scientifique, voire très peu scientifique, beaucoup plus politique que scientifique. Donc là, les données sortent. C'est pas vraiment rien de complotiste, là, dans le sens où les sources sont données. Les gens peuvent lire, aller lire. Ça me fait un peu rigoler toujours les accusations de complotisme. Là, parce que d'abord, c'est pas. Moi, le sanitarisme, j'avais jamais pensé que je me pencherais là-dessus dans la vie. Là, j'étais plutôt sur des thèmes d'identité culturelle, multiculturalisme, immigration, métissage. Je m'intéressais beaucoup au métissage en Amérique latine. Je pensais pas que j'allais un jour me prononcer sur un truc du genre. Là. Donc, écoutez, pour les gens qui pensent que d'autres et moi auraient instrumentalisé ce thème pour être plus visible dans les médias, dans l'espace public, pas du tout. Je l'ai fait par conviction, honnêtement. Au début, j'étais très prudent. En fait, j'ai, comme tout le monde, les 6 premiers mois de la pandémie, j'ai attendu, j'ai observé. Je suis revenu d'ailleurs au Canada parce que je me disais la société mexicaine a pu s'effondrer économiquement. J'étais pas à la plage, j'étais pas un tout compris. J'étais dans un quartier de Mexico relativement populaire. Ça a commencé, la tension a commencé à monter. Là. On parle des 2 premières semaines de la pandémie. Là. Les chiens de garde, les pitbulls, le voisin qui s'achète un 3e pitbull parce qu'il pense qu'il va se faire voler. Les policiers commencent à monter la garde devant les épiceries parce que des pillages. On est à Mexico, là. On n'est pas à Boucherville, les amis. Là. Donc, pourquoi je dis ça? Au début, j'étais très prudent. Et là, finalement, quand sont arrivées les premières mesures vraiment abusives, là, on a commencé à comprendre que c'était politique. Je pense que ça a commencé en septembre, en fait. Là, rappelez-vous, c'était septembre 2020 ou 2021? 2020, je pense.
2020, parce que la pandémie a commencé début 2020, janvier, février, mars à peu près.
C'est ça, donc
le premier confinement est en mars, je crois.
C'était pratiquement muet sur le thème, de mars à septembre.
Ouais.
On parle quand même de mars, avril, mai, juin, juillet, c'était, on parle de 6 mois là, où tout le monde était, on est prudent, je ne faisais rien de spécial. C'était plate, évidemment, mais on acceptait, puis on ne connaissait pas la force du virus. Et là, c'est petit à petit, ben, on a vu. Enfin, moi, j'ai compris que le Québec ben, était dans sa bulle aussi. Alors, évidemment, on disait qu'on faisait pareil que les Français, mais c'était pas tout à fait vrai sur le terrain. Et puis, on a vu que le Québec allait largement faire du zèle et qu'il vraiment se surpassait en termes d'autoritarisme par rapport à ce qu'on peut voir ailleurs, particulièrement au Mexique, où je suis retourné. C'est drôle, hein, par après, regardez ça, parce que quand je suis retourné à Mexico, c'était le plus haut de la vague là-bas, c'était les semaines les plus létales selon les médias. J'ai même des amis qui me disaient que je retournais mourir là, à Mexico. Je me disais, tu vas aller crever là-bas, t'es irresponsable. Et moi, j'arrive là, puis bon, on s'en va au stand à tacos, on s'ouvre là, tu sais, ça n'a rien passé, vous comprenez. Il y avait évidemment des diabétiques qui mouraient du virus. Il y en a eu beaucoup au Mexique, mais c'est plus l'obésité que le COVID rendu là. C'est-à-dire que si vous buvez 2 litres de coke par jour depuis 40 ans, c'est peut-être plus le coke qui vous a tué que la COVID. Là.
Faut comprendre que le Coca-Cola au Mexique, la consommation de Coca-Cola est quelque chose d'astronomique, si je comprends bien.
Oui, c'est vraiment une religion presque. J'en parle dans mon livre, c'est comique, là, mais c'est un grave problème de santé publique. Et les enfants qui consomment du Coca-Cola au déjeuner, c'est vraiment. Il y a même des rituels religieux à base de Coca-Cola dans certaines tribus mexicaines. Donc, on va mélanger le coke avec un alcool extrêmement fort. C'est vraiment, non, le Pepsi n'a aucun avenir véritable. Si vous voulez investir, je ne sais pas si Coca-Cola est en bourse au Mexique, mais je ne mettrais pas mon argent dans Pepsi au Mexique, là, oubliez ça.
Ah, ils ont perdu la guerre marketing. Quand.
Ah oui, non, eux autres, c'est vraiment, ils n'ont pas 20% du marché, frais vérifié, là. Mais je ne sais pas si on va parler de ça aujourd'hui, mais...
Mais c'est non, un côté intéressant, je pense.
C'est comme la Vierge, presque. Là, c'est-à-dire le Coca-Cola au Mexique, si on rentre au dépanneur, tous les formats existent. Là, entre le 100 litres puis le litre, le 4 litres, en fait, ils ont des 4 litres là-bas. Nous, je pense qu'on s'arrête à 2.
Oui, il me semble.
Tout existe, là, en vitre, en bouteille, refermable, récupérable. 100, 130 litres, 140 litres, 262 litres, pas de litres, mais millilitres. C'est le camion rentre là au dépanneur au Mexique, puis c'est que du coke presque. En tout cas, bref, ils adorent ça.
Non, c'est intéressant, mais le fait que vous avez voyagé, ben, voyagé peut-être pas le terme, là, dans le sens où vous vivez à Mexico, au Mexique, ainsi qu'à Québec et au Québec. Ça vous a donné une perspective que, comme vous avez mentionné, que un de vos amis vous dit « Ah, vous allez mourir au Mexique ». Il y avait une certaine, c'est pas une paranoïa, mais c'est peut-être une espèce de phobie de tout ce qui venait de l'extérieur, comme si le Québec était tellement supérieur pendant la pandémie, parce qu'on était heureux des mesures contraignantes à l'excès. On les demandait, en fait, je comprends votre critique, là, vous avez parlé d'autoritarisme, mais est-ce que c'est un autoritarisme qu'on le demande? Pendant la pandémie, au début, je parle de moi-même ici, là, mais j'étais plutôt d'accord avec les mesures. Je me dis, même qu'au départ, je pensais que ça allait nous frapper beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fort en termes de morts, mais aussi en termes de santé publique. Là, les conséquences allaient être très graves parce que je suivais les nouvelles provenant de Chine du mieux que je pouvais et d'Italie. Je me rappelle très bien le début de la pandémie en Italie faisait peur. On parlait de stades entiers contaminés. Puis là, il y avait des cercueils empilés un par-dessus l'autre, des photos qui circulaient. Ça faisait peur. Donc au début, ouais, j'étais plus ou moins critique des mesures, mais après, ça s'est transformé en une espèce de semi-pseudo-religion, je devrais dire, où notre supériorité culturelle était proportionnelle à la... pas la gravité, mais la sévéritude des mesures sanitaires. Et c'est des étrangers, oui, qui m'ont dit, en fait, oui, le Québec est beaucoup plus loin que de tous les autres et il y a une différence. Moi, naïvement, je croyais que les mesures étaient relativement les mêmes dans différents pays, mais non, en effet, le Québec était beaucoup plus avancé. Ouais.
C'est ça qui est intéressant. Moi, je me suis mis un peu par intérêt intellectuel, là, évidemment, à analyser tout ce qui était mesures sanitaires, etc. Et je suis allé à Paris durant le passeport vaccinal et j'étais à Mexico, je vais à Paris depuis Mexico à ce moment-là. Et là, je me dis, la France va être à peu près entre le Mexique et le Québec. Et en fait, je pensais que le Mexique était plus proche du Québec que du Mexique. Et oui, il y avait le passeport vaccinal, mais c'était assez rare quand même que les restaurateurs me le demandaient. Et souvent, c'est « Monsieur, allez vous asseoir et on vous le demandera plus tard », ce qui était impensable au Québec où on vous cartait la malentrée des Normandins. Dans un délire absolument incroyable, les commis du Walmart étaient devenus des douaniers sanitaires, donc investis d'une mission. Là, ce qu'on a vu à quel point on était ticoune et que vraiment, le simple fait d'être investi d'un peu d'autorité vraiment nous rendait tout à fait là, euphorique, presque là, ivre d'autorité qu'on a acquise. C'est un peu pathétique, là, peut-être le réflexe de coloniser. Mais non, les gens... parce qu'il y a les mesures... est théorique, décrété par l'État, et il y a comment les gens les suivent. C'est le rapport aux mesures. Et ça, il faut avoir un peu faut être assez fin intellectuellement pour comprendre la différence, là, parce que j'ai essayé de l'expliquer, puis c'est pas toujours... c'est les mêmes mesures. Ouais, non, mais le rapport aux mesures, ça veut dire, je comprends, là. C'est pas la même chose, les mesures et comment on y obéit, comment on y réagit. Et c'est là que c'est dans cette réponse... aux mesures qu'on voyait comment les peuples qu'on voyait la couleur propre à chaque peuple, si je peux dire. Donc je suis allé en Colombie aussi durant la crise sanitaire. Et dans chaque pays, il y avait une culture qui différente. S'il y avait un rapport aux règles qui était différent. Au Mexique, par exemple, ils ont suivi à peu près aucune règle, mais ils mettaient beaucoup le masque. Et là, extrêmement incohérent. Donc, on avait cette espèce de cette volonté d'être ostentatoire dans notre adhésion au sanitarisme. Mais c'était comme le gars qui va à messe le dimanche et qui part voir sa maîtresse après. Là. T'sais, c'était vraiment ça. Le Mexique catholique, très hypocrite. Donc, on affiche, tu rentres quasiment dans un bordel et là, tu as un truc, distanciation sociale. Ouais, mais c'est parce qu'on est dans un bordel. T'sais. Mais non, j'exagère, je suis pas allé là, évidemment. Là. Mais ça, c'est très mexicain. Là. C'est-à-dire, j'avais un voisin qui a porté le masque tout le temps puis il recevait 50 personnes la fin de semaine. T'sais, toute la famille était là dans un 4,5. Il y avait ma tante, tout le monde avait les mains dans les chips. Puis le monde, ils se mettent un masque en sortant dehors. Là. Vous comprenez? Ça, c'était très, très mexicain. En Colombie, on retrouvait moins ça. Beaucoup moins de masques, mais un passeport vaccinal pour entrer dans des musées. Ça, c'était un peu étrange. Au Québec, moins de masques dans la rue qu'à Mexico. Il faut dire que Mexico est une ville de 25 millions. Là, t'sais, donc, t'sais, même avant la pandémie, il y a des gens qui mettaient des masques à cause de la pollution. Donc, il y a toujours ça là, qu'il faut considérer. Mais au Québec, ce qui est drôle, c'est qu'on a vraiment abandonné le masque en grande majorité. Mais on a gardé des traits très réglementariste, très, très rigide. On est très psychorigide. Là, on adore les règles. Donc, il y a plein de paradoxes dans tout ça. Bref, parce que je m'étais amusé, puis je m'amuse encore à observer tous ces genres de paradoxes. Et c'est là qu'on voit que la science dans tout ça, c'est parce que la science, quand la science évolue au gré des cultures, c'est que tu vois que la science, c'est très relatif aussi, finalement. L'interprétation des consignes scientifiques change en fonction des cultures, alors que la science ne devrait pas changer en fonction des cultures. Ça devrait toujours être la science, mais tu vois qu'on est quand même encore dans un monde de culture, là, et plus que de monde de... On est dans un monde de croyances, finalement. On n'est pas sorti de la croyance, du religieux, la superstition, le purel, évidemment. Là, c'est très au bénite. Il y a des gens qui se sont presque des... dessécher les mains avec ça. Et puis quand les églises ont évidemment remplacé l'eau bénite par le purel, là, genre, c'est un sommet. Là, on a vu que l'église elle-même se soumettait à un nouveau culte, à l'intérieur même de dans la maison de Dieu. Écoute, il y avait un autre culte, celui du sanitarisme. C'est incroyable, non? Là, c'est fou, raide. Là, tu vois qu'il s'est passé quelque chose. Un changement de paradigme. Imaginez quand même, l'église catholique qui accepte de remplacer l'eau bénite par du purel à l'entrée. Parce que l'eau bénite serait plus assez, saine. Puis bon, c'est incroyable. C'est ça. L'Église s'est soumise au sanitarisme, à la religion sanitaire. C'est-à-dire, on est dans le paganisme.
Oui, j'en ai entendu parler de l'exemple du purel dans les églises. Pour être franc, j'en ai entendu parler là, vraiment sur le coin d'une table, autour d'un verre. C'était pas quelque chose d'officiel. J'ai pas lu d'article à ce sujet.
Moi, j'ai écrit un article là-dessus dans le verre, mais c'est-à-dire que. Évidemment, il ne faut pas rester focalisé sur cet exemple-là. C'est un symptôme. Ça, c'est pas, sais pas, j'écrirais une thèse de doctorat là-dessus, là. Mais c'était symptomatique d'une adhésion assez large à ce qu'on peut appeler une idéologie ou à plus que ça, qui était le sanitarisme. Et au Canada, on pense que la liberté de religion, c'était la liberté fondamentale. Et finalement, on a restreint beaucoup la liberté de culte durant la crise sanitaire. Même le libéralisme anglo-saxon, qui vénère la liberté de religion. C'est les anglo-saxons qui font la leçon québécoise sur la laïcité. Vous êtes des rousseauistes dégénérés, etc. Alors qu'eux-mêmes avaient des limites dans les églises au Canada anglais, là. Donc, moi, c'est pas un sanitariste du Canada anglais qui me fait la leçon sur la laïcité. Là, quand on parle de liberté de religion, ça allait très loin, vous comprenez? La liberté de culte a été fortement malmenée durant la crise sanitaire. Au Québec, on s'en fout parce qu'on n'est plus religieux. Mais c'est dans une perspective anglo-saxonne où on a encore cette valeur-là à cœur. C'est incroyable. Hein? C'est incroyable.
La politique du risque zéro dominait surtout, je pense que...
Oui, oui, c'est ça. Oui.
Rendu à un certain point, la politique du risque zéro était l'argument dominant. On n'avait qu'à l'invoquer et toute mesure était donc adoptée et adoptable. Et surtout, il fallait suivre la chose. On n'était pas seulement... C'est pas seulement la police et l'État qui réglementaient la chose, mais nos voisins allaient nous dénoncer. Là, je pense que c'était Valérie Plante, peut-être même François Legault, je ne me rappelle plus exactement, là, mais... avec un des représentants gouvernemental, plus qu'un d'ailleurs, avait incité à la délation, en gros. Donc, on était passé dans un univers un peu soviétique, sanitariste. Là, je peux dire, là, j'utilise des gros mots, là, mais c'est un peu ça. Mais,
quand on a voyagé un peu, je le dis, c'était les gens, ils croient pas, ils pensent que j'exagère, tout ça, mais pas tout le monde, là, mais mes critiques, je peux dire. Mais non, c'est-à-dire... J'exagère pas, là. C'est-à-dire qu'on était à Mexico, puis pendant que les gens ici étaient dans un délire incroyable, nous, on est dans une ville où la densité sociale là-bas est beaucoup, beaucoup plus élevée, même à Montréal. Et on rentre dans des restaurants, on peut aller en discothèque. Tu sais, le monde ne mourait pas, donc il n'y a pas creusé des fosses communes dans les parcs, là. Puis c'était des moments assez incroyables, même ça donnait des moments de radio assez fous, là. J'étais à Radio X le matin. C'était des sommets de confinement au Québec, la terreur d'un journaux, les touristes à tout ça. Tout le monde est enfermé, même à Radio X, les animateurs ne pouvaient même plus aller faire de la radio, je pense, en studio. On atteint, c'était fou, là. Et moi, l'animateur Dominique Morel me demandait tout bonnement chaque matin, oh, toi, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui? Ben moi, je m'en vais travailler sur un café là, à Mexico. Qu'est-ce que vous pensez qui se passe là? Mais au Québec, c'était le mur à mur. Là. Et moi, j'étais dans un taxi, vite dans un taxi, mon neveu sur les genoux. C'est ça qui se passait dans le monde. Là. Et nous, passeport vaccinal, distanciation sociale, et tout le tiers-monde continue à être vite dans un taxi. C'est ça qui s'est passé. Le décalage auquel on a assisté était incroyable. Moi, j'ai regardé ça à Mexico, là, je m'en souviens toute ma vie. Là. Puis le fameux dernier jour de l'an, vous rappelez, il y a un jour de l'an où le Québec était pratiquement le seul État sur Terre à bannir les festivités, là, les célébrations.
Oui, oui.
Il y a eu une espèce de couvre-feu de dernière minute.
Couvre-feu d'urgence, oui, je me rappelle très bien que la conférence de presse surréelle.
C'était surréaliste. Pyongyang célébrait en grand les célébrations du jour de l'an. Montréal était confiné. Moscou, toutes les villes les plus qu'on imagine.
Le bloc de l'Est au complet.
oui, c'est ça. Jusqu'à probablement la Birmanie, de n'importe quoi. Et nous, Montréal, qui était fermé. Finalement, Montréal était fermé ce soir-là. Et Mexico, évidemment, les pétards, c'est incroyable, là. Le lendemain du jour de l'an, le 1er janvier, à Mexico, on ne voit plus à 2 mètres tellement les gens ont fait sauter des pétards. Si vous faites de l'asthme, je ne conseille pas. Là. Et nous, on s'était là. Puis là, cet été, les feux de la Saint-Jean, ben là, ça va peut-être faire de la fumée et tout ça. Parce que c'est une forêt, le Québec. Là, je ne sais pas si vous pensez que ça allait étouffer là. T'sais, la qualité de l'air à Québec, on ne meurt pas. Là. Je ne suis pas pour la pollution. Mais je pense pas que ça allait avoir des problèmes de santé à ce point-là parce qu'on a fait un feu de la Saint-Jean. Là. Enfin, c'est vraiment un esprit particulier. On est entré dans une... c'est pas une belle époque pour le Québec.
Non, exactement. Il n'y a pas eu de post-mortem en grande partie parce qu'on a gardé les mêmes réflexes. La même structure mentale est restée. Elle existait peut-être déjà avant, là, mais elle est devenue très évidente pendant la pandémie, l'espèce de moutonisme. Bon, québécois, là, ça, je généralise, mais la chose n'a pas ou peu été analysée. Encore moins décortiquée, encore moins critiquée. Bon, il y en a eu, il ne faut pas exagérer, il y a quand même plusieurs critiques de la gestion gouvernementale de la pandémie, mais je pense que vous avez dit avec ce qui est très pertinent, c'est la réaction aux mesures en fait du peuple, du citoyen moyen qui était analysé. Et ça s'est peu fait.
Il pense que la réflexion aurait dû beaucoup venir des nationalistes et ça aurait vraiment été un angle mort assez manifeste de leur côté. C'est-à-dire, moi, je ne peux pas concevoir qu'on pouvait être nationaliste et qu'on pouvait adhérer à ce degré aux mesures sanitaires. Je pense que c'est vraiment un coup... c'est comme le comment on dit, pas un coup fatal, mais porté au Québec, mais c'est de l'acharnement. Et les séquelles de la crise sanitaire pour le peuple québécois à long terme sont déjà catastrophiques. C'est-à-dire pour la vitalité du Québec, ce qui s'est passé pendant 2 ans, c'est catastrophique. C'est-à-dire quand on est nationaliste, quand on croit en la survie du Québec, de sa culture, etc., et qu'on se trompe à ce point-là et qu'on contribue à ce point-là à son déclin, son enfermement sur lui-même. C'est un monde dominé par la peur. C'est terrible. Les séquelles sont plus grandes qu'on croit. Les plaies ne sont pas refermées. Et c'est une erreur gravissime. Le rapport à Noël aussi, on l'a vu, qu'on congédier Noël, qui est devenue une fête sans importance. C'est finalement la dernière tradition du peuple québécois qui est devenue atomisée. Il n'y a aucune spiritualité ici, etc. Et de penser qu'il n'y aura pas de conséquences à congédier Noël comme ça, puis à présenter la famille comme finalement une espèce de réunion de mononcles plus ou moins convenable et assez colon finalement. C'est catastrophique. C'est catastrophique pour le tissu social, pour la société. C'est une société très, très atomisée. Il ne passe plus grand-chose d'ailleurs. Et on se demande si on est vraiment sorti de la pandémie. Moi, je ne crois pas. Là. Je pense que pense pas qu'on soit sorti mentalement complètement de la pandémie au Québec et personne ne veut le voir apparemment.
On touche au cœur, je dirais, votre critique du Québec contemporain. Là, j'ai relevé quelques expressions que vous avez utilisées publiquement sur les réseaux sociaux, principalement, là, que j'aimerais citer parce qu'elles m'ont fait rire personnellement. C'est la première, repli sur le foyer, société chalet, caste de profiteurs subventionnés. Le Québec est une société déjà trop chère pour ce qu'elle peut offrir. Vous avez l'expression, le hashtag grands enjeux pour rire un peu des médias québécois en voulant dire qu'un chat pris dans un arbre n'est pas un grand enjeu. Donc c'est très sarcastique là, l'expression oui. Ici grands enjeux. Les Occidentaux sont devenus des êtres, bon, on parle pas que des Québécois ici là, mais les Occidentaux sont devenus des êtres inadaptés devant des choses aussi élémentaires que la réalité des sexes et celle de la vie et de la mort. Ça, je crois que ça vient de votre livre Un Québécois à Mexico. Ouais. Ce qui me ramène à ce que je disais au début là, de mon intervention. Votre critique, je la résume là. Vous en venez à la conclusion que l'Occident et le Québec se dévitalisent, qu'il y a quelque chose de moribond qui se passe là, au Québec, bon, globalement en Occident aussi. Pouvez-vous nous en dire un peu plus à ce sujet-là, psychologiquement parlant, mais au-delà, j'ai envie de dire, de la gestion de la pandémie?
Oui. Ça, c'est quelque chose qu'on me reproche souvent. On dit non, mais ce dont tu parles, c'est occidental. Ce n'est pas seulement québécois. Je suis d'accord tout le temps, mais le problème, c'est que c'est pire au Québec. C'est-à-dire, le Québec est comme à l'avant-garde du déclin de l'Occident. C'est sûr que les gens m'ont dit c'est quelque chose, mais oui, c'est ce que j'observe moi personnellement. Puis je suis déçu, là. Je suis assez découragé, moi, finalement, par l'état du Québec. Mais c'est ça, le Québec, c'est devenu une société. D'abord, c'est un bar ouvert, là. C'est vraiment bar open pour tous ceux qui sont rattachés d'une manière ou d'une autre à l'État. Donc, il y a une sorte de pas de, il y a une sorte de caste, oui, au pouvoir, là, qui vit sur des petits privilèges. Il y a toute la question de la médiocrité, c'est-à-dire la médiocrité, c'est pas le régime des pas bons, c'est le régime des moyens. Aussi, quand je parle de médiocrité, faut peut-être que je le précise, c'est-à-dire le médio, c'est le régime du milieu. Médio, en espagnol, c'est milieu. C'est-à-dire le Québec, c'est une société du milieu, de la classe moyenne, où finalement, il vaut mieux pas ne pas exceller, il faut pas déranger le groupe, il faut pas sortir le groupe de sa zone de confort. Donc, il y a un rapport très conflictuel à ceux qui se démarquent d'une certaine façon du troupeau. C'est très pesant, ça amène toute une lourdeur. Et c'est une société qui est devenue aussi assez paresseuse. Moi, ça me frappe aussi. Il faut dire que j'ai des comparables assez extrêmes, dans le sens où là, on parle peut-être du Mexique, mais c'est une société qui travaille moins qu'avant. Là. Moi, je pense, là, depuis la pandémie, je pense qu'on a beaucoup nourri la paresse. Le télétravail aussi, ça a changé beaucoup de choses. On a l'impression qu'il n'y a plus d'idéaux ici. C'est une société qui n'est pas animée par... plus aucun principe véritable autre que les loisirs. Vraiment, l'emprise des loisirs au Québec, c'est très fort. Les sports d'hiver, tout ça. Donc, les gens vivent pour faire de la raquette, pour faire aller au chalet. Puis après, la société chalet, c'est au sens psychologique et géographique. C'est-à-dire, un chalet, c'est quoi? C'est un endroit où finalement, on va décrocher et on refuse un peu le monde extérieur. Le Québec, c'est ça. C'est le refus du monde extérieur, de l'adversité, en le repli dans l'arrière-pays, c'est-à-dire la retraite dans l'arrière-pays. On va fuir, notamment peut-être le colonisateur anglais dans l'arrière-pays. On fuit une certaine réalité qu'on ne veut pas affronter, soit celle d'anglicisation ou autre chose. Et géographique au sens que le Québec est une société périphérique, c'est-à-dire en périphérie de l'Empire américain. Au nord de l'Amérique, mais vraiment perdu dans le nord, là, au sens que le Québec, c'est comme l'Abitibi de l'Amérique, des Amériques. Là. C'est en haut là-bas. C'est très, très périphérique. Là. On sent qu'on n'est pas, c'est pas un carrefour de rien. Ça, c'est pas de notre faute. Là. C'est-à-dire, on est là, on est en haut là-bas, puis on n'est pas le centre de l'Amérique du Nord. Ça paraît et ça commence à être un peu exagéré. Là. C'est donc la société chalet, c'est le refus du monde extérieur et le caractère très périphérique en marge de la société. Un chalet, c'est quelque chose qui est perdu dans le bois. Là. Ben, le Québec, pas mal ça, là. Mentalement et géographiquement. Enfin, moi, ça me fait rigoler parce que les gens me parlaient des fois, ils me disaient, ouais, là, vas-tu revenir au Québec? Là, t'sais, comme si le Mexique, c'était dans le fond, pour eux, c'était le Mexique qui était une sorte de société sans importance. Mais quand tu habites à Mexico, j'avais goût de dire aux gens, c'est parce que c'est ici le centre du monde, c'est pas la ville de Montréal, les amis. Là. S'il y a beaucoup de centres, évidemment, il n'y a pas un centre du monde, là, c'est pas ça que je veux dire. Mais c'est important de se décentrer. Et on se conforte malheureusement, au lieu d'essayer de se déprendre et d'adhérer finalement au monde, là, puis s'intéresser à ce qui se passe sur notre continent, la crise migratoire, tout ça. Tu sais, là, on commence à peine à toucher à ce thème-là et on s'y est intéressé seulement à raison du chemin Roxham. Tu sais, c'est parce que la personne qui arrive au chemin Roxham est peut-être partie du Venezuela. Il faudrait peut-être comprendre que vous êtes en Amérique du Nord. Qu'en Amérique du Nord, c'est pas juste le Québec, puis des tout compris. Il y a des pays, il y a des gens qui habitent dans ces pays-là. Non, mais on part de loin des fois, on part de très loin.
Donc, mais c'est sûr, mais si je peux me permettre, il y a la critique du Québec à faire, là, je pense que c'est évident. Ceci dit, un peu comme les Français, en fait, au Québec, on met pas assez l'accent peut-être sur la voie à venir ou la voie à adopter ou les choses à changer ou l'attitude à adopter en politiquement, mais aussi socialement parlant, psychiquement parlant aussi. Comment voyez-vous, j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on interpréterait un redressement du Québec? Ça ressemblerait à quoi, à votre avis?
Ouais, ben je travaille, je veux pas voler le punch, là. Je travaille avec quelqu'un sur des solutions, en soit des propositions, là. Donc, on me reproche ça aussi, là. J'ai beaucoup de reproches aujourd'hui, mais oui, bon, une fois que tu as dit ça, qu'est-ce qu'on fait? C'est bon. C'est sûr que ça passe par moins d'États. Il y a trop d'États au Québec. Il y a une casse qu'il faut démanteler. Il faut retrouver un peu le goût de l'aventure, du risque. Il faut faire en sorte que l'État ne soit pas juste là au service d'une zone de confort. Là, c'est trop, parce que là, c'est trop, c'est comme pas assez. L'État a été nécessaire, on le sait, dans les années 60-70 pour consolider finalement la culture puis la préserver contre l'anglicisation. Donc, l'État a été un levier culturel important au Québec pour tout le monde le reconnaît ça. Mais là, c'est pas le monde à l'envers, là, mais il y a un retour du balancier. On a atteint un autre extrême. C'est-à-dire là, c'est l'État qui a créé une sorte de culture qui est artificielle, là, qui est maintenue sous respirateur artificiel. Et là, il faut comme retrouver un peu la force organique du Québec, si elle existe encore, au-delà d'avoir une culture qui dépend entièrement de l'État. Le Québec ne survivra pas si sa seule impulsion vient des gouvernements. Là. Parce que vous pouvez bien imposer la loi 101 au cégep, vous pouvez renforcer l'affichage en français, mais s'il n'y a pas d'enfants, s'il n'y a pas de natalité, il faut aussi revenir à des essentiels. Si vous n'avez pas compris que la préservation du français passe par une natalité forte, là, vraiment, vous n'avez rien, mais rien compris. T'sais, vous pouvez bien faire des lois, empêcher des gens de parler dans toutes les langues du monde, dans leurs appartements. Vous pouvez empêcher des immigrés hindous de vendre des muffins à Montréal, si vous voulez, mais s'il n'y a pas d'enfants de langue française, dont les parents parlent français, qui naissent, qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe ici? Là? Donc, le nationalisme a vraiment développé une mentalité de fonctionnaire complètement déconnectée de ce que devrait être un nationalisme, finalement. C'est-à-dire... Si un nationalisme sans tradition, sans natalité, je ne comprends pas trop ce que c'est. Là. C'est une espèce de nationalisme soviétique. Là. Donc, les solutions, c'est d'abord, ça prend de la natalité. Puis, je ne suis pas en train de dire qu'il faut augmenter, doubler, tripler les allocations familiales. Mais il faut changer de mentalité. Les solutions passent par un changement de mentalité. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. Mais si on persiste dans cette espèce de confortabilisme où vraiment notre seule aspiration, c'est d'avoir des objets, du confort matériel, la sécurité économique, ben là, c'est sûr qu'il ne passera plus jamais rien ici. Là. C'est plate. C'est vraiment déplorable hein, ce qui se passe. Mais pour vous répondre, la solution passe par un changement de mentalité. Comment amener ce changement de mentalité? Là, c'est une sorte de mini-révolution culturelle. C'est-à-dire que ça prend des gens comme nous qui s'expriment. On essaie d'aller à la rencontre des gens intellectuellement puis essayer de leur dire, ben là, êtes-vous heureux, vous, dans la vie, dans le fond, êtes-vous heureux? Parce qu'il y a un problème aussi à ce niveau-là. Là. Psychologiquement, on sait que les problèmes de santé mentale explosent. Et c'est le grand paradoxe de l'Occident et du Québec. C'est-à-dire plus les gens sont riches et plus ils semblent anxieux. C'est pas tout à fait normal. Plus ils sont confortables et plus ils semblent maganés psychologiquement.
Donc oui, en ce qui a trait à la natalité, je voudrais que je suis dans le camp des pessimistes. Je suis d'accord avec l'analyse qu'il faut simplement faire plus d'enfants au Québec, non seulement pour la question du français, mais comme étant aussi un signe de vitalité démographique, premièrement. Ceci dit, la natalité est en baisse partout dans le monde. Je ne vois pas comment le Québec pourrait... Aller en sens inverse. Même la Chine est déjà dans une dynamique démographique négative, ce qui veut dire que la population baisse. La Corée du Sud, je crois, de mémoire, a rendu un taux de natalité à 0,8 environ enfants par femme, ce qui est plus bas que le Japon, qui était jusqu'à tout récemment le meneur mondial en ce qui a trait en taux de natalité les plus bas. Le Québec, de mémoire, on doit être autour de 1,3-1,4, ce qui est à peu près dans la moyenne occidentale, je crois. Là. Encore une fois, je ne suis pas un démographe et c'est pas ma spécialité, mais j'ai déjà écrit sur le sujet. On se démarque du reste du monde occidental. On est peut-être un peu plus bas que la moyenne, mais pas beaucoup. Donc, Je suis d'accord avec l'analyse, avec la conclusion, mais avec la solution, je ne sais pas comment on fait pour stimuler la natalité de nos jours. Surtout quand on réalise que c'est la dynamique la même partout dans le monde. Ça semble irréversible. Il faudra voir comment ça se ferait. On n'a plus les curés d'antan, en fait, là, qui disaient aux femmes d'avoir des enfants. Maintenant, on a des curés qui disent... Des curés qui ne sont pas des curés, bien sûr, là, mais des... certaines figures intellectuelles et médiatiques qui nous disent exactement le contraire, de ne pas avoir d'enfants, donc une espèce de stérilisation planifiée. Non? Allez-y.
Mais c'est ça, c'est d'abord, il faudrait peut-être mettre la pédale douce sur ce genre d'idéologie. Le taux de natalité est un peu plus élevé en France qu'au Québec. D'abord, il y a ça, c'est-à-dire si on fait peur aux gens constamment, qu'on leur dit que en même temps, c'est un prétexte. C'est tellement facile. Les parents le savent. C'est reste que pour être parent, faire quand même quelques efforts. Puis les gens ne sont pas prêts en enfer. Quand tu dis, moi, je ne veux pas d'enfants parce que je veux sauver la planète. Non, parce que tu veux te pogner le cul toute ta vie. Tu arrêtes de nous dire des conneries. Là. Non, mais c'est parce que là, il faut quand même se dire des vraies affaires. Là. Parce que là, tu sais, c'est beaucoup, beaucoup de ça. Là. On offre des excuses idéologiques à des gens qui n'ont pas les capacités psychologiques pour faire face à la vie. Donc, eux, ils embrassent ce discours-là qui fait tout à fait leur affaire. C'est la même chose pour le confinement. C'est-à-dire, vous voulez vous pogner le cul toute l'année, faites-le, vous allez même être les héros du gouvernement. Non, mais imaginez, vous dites à une population que le top de l'héroïsme, c'est rester chez soi à ne rien faire. PCU, là. Donc, c'est sûr que si on poursuit dans cet esprit, un esprit subventionné qui est largement propulsé par nos propres gouvernements, pas s'attendre à... Puis au Québec, je ne dis pas qu'il faut avoir 5 enfants. Mais si on est à 1,5, il faut peut-être passer à 1,8. Je ne parle pas non plus d'une révolution de la natalité, mais il faudrait être capable de nous maintenir suffisamment. Et je ne comprends pas que chez les nationalistes, cette réflexion-là, ce constat-là, soit pratiquement inexistant et qu'on poursuit avec de la bureaucratie, alors qu'on le sait, il y a un enjeu démographique.
En privé, je crois que le sujet est abordé. Publiquement, non. Publiquement, le sujet serait trop... ça serait trop frontal comme assaut envers un certain discours féministe, si je peux dire, hein, qui demande que les femmes aillent sur le marché du travail, ce qui est déjà accompli. Là, on en fait des portes ouvertes ici. Mais un genre de discours nataliste, j'ai envie de dire mélangé avec un discours nationaliste qui... Ça reviendrait en fait à ce que je disais tantôt, les curés à l'époque. On oubliait qu'il y avait un aspect absolument politique à la très forte natalité canadienne-française à l'époque, là, québécoise comme on dirait aujourd'hui. C'était pour augmenter le poids démographique des francophones au Canada. Oui. Donc il y avait un aspect politique qui n'a pas disparu, mais on ne veut pas en parler parce que, comme j'ai dit... Maintenant, c'est trop en confrontation, c'est trop à l'inverse, au contraire du discours.
La droite arrive assez vite, là, je comprends.
Exact.
Par contre, on n'est pas plus heureux. C'est-à-dire, moi, je ne crois pas à ça. Moi, je ne crois pas qu'au Québec, il y a des palmarès où on dit le Québec est une des sociétés les plus heureuses au monde. Je n'en crois absolument rien. Moi, quand je reviens ici, j'ai l'impression que les gens sont maganés psychologiquement.
Mais est-ce qu'ils le savent? Parce que j'ai l'impression que la définition d'une vie bien vécue, pour y penser assez quotidiennement d'ailleurs, est à peu près impensée au Québec. Donc, ce qu'on appelle être heureux au Québec, c'est avoir une belle maison, avoir un condo, avoir une voiture,
exactement,
puis vivre en banlieue, tu sais, mais est-ce que c'est vraiment ça?
Eh bien, non, il y a des gros problèmes. Il y a des gros, gros problèmes. Ça se reflète, puis si vous parlez des psychologues, peuvent en témoigner, évidemment, il y a un secret professionnel, mais les gens sont très, très maganés. C'est très, très, très mystérieux parce que c'est un... Quand je dis que c'est jamais rien passé ici, je veux dire, je le dis parce que c'est vrai, là. Dans le sens, il n'y a pas de guerre de sécession, il n'y a pas de guerre civile, tu sais, parce que il y a eu la guerre dans plusieurs pays dans le monde, là. Tu sais, depuis les plaines d'Abraham, il n'y a pas eu de conflit armé vraiment au Québec, à part les patriotes, là.
On se
demande pourquoi les gens sont si maganés que ça. Et que les taux d'anxiété, de dépression sont si élevés alors que finalement, les gens mènent une vie si confortable. Moi, vraiment, c'est au quotidien avec ma femme, évidemment, qui est mexicaine, elle, qui connaît les sociétés où il n'y a pas d'argent. Là. la pauvreté. C'est-à-dire, quand on vit au Mexique, les gens peuvent voir là, mon livre, c'est-à-dire toute cette réflexion sur la pauvreté dans le monde. Il y a ça. Je pense pas que ce soit un livre d'extrême droite, là, Québécois-Mexico. Il y a vraiment une réflexion sur ces thèmes-là. Finalement, les Autochtones au Mexique, évidemment, sont les plus pauvres, etc. Mais c'est très paradoxal. C'est-à-dire, on vient au Québec et là, tu as du monde qui ont le ventre plein, pas à peu près. Genre deux skidous, un pick-up, voyage dans le sud chaque année et qui sont complètement détruits psychologiquement. Je dis vraiment, c'est quoi le problème, là? C'est toujours ça partout. C'est la loi du moindre effort. On nivelle constamment par le bas. Non, mais il faut se poser la question. C'est-à-dire, pourquoi les Québécois sont les plus grands consommateurs d'anxiolytiques au Canada? Il faut que quelqu'un réponde à ça.
On pourrait relativiser en disant que tous les pays occidentaux consomment différents médicaments reliés à la santé mentale de façon astronomique, de façon maladive. Paradoxalement, je crois que le Québec n'est pas mieux, mais je ne sais pas à quel point on est pire que le reste de l'Occident.
Dans la terre du Canada, on est dans les plus grands consommateurs de Ritalin, etc. Le recours au Ritalin, là, systématiquement, pour assommer nos enfants, c'est un peu la logique du masque. C'est-à-dire, t'es tannant, fermons ta gueule, on te met un masque d'en face, puis on donne du Ritalin. Non, mais vraiment, je sais pas si des gens comprennent ce qui s'est passé ici. L'intolérance aux enfants, finalement, qui est un peu tabou, mais qui se ressent. Enfin, le Québec est plein de non-dits, plein d'interdits, de lois non écrites, très désagréables au jour le jour. Et c'est ça. Mais la natalité, je comprends que oui, si c'est un mouvement, c'est sûr que si un Mathieu Bock-Côté prônait la natalité à grande échelle, là, vraiment, c'est je pense pas qu'il y aurait des réactions. Il y aurait beaucoup de réactions. Et encore, faut-il prêcher par l'exemple? C'est-à-dire, des gens qui n'ont pas d'enfants, qui vont se mettre à dire qu'il faut en avoir, ben, c'est comme commence par toi-même, hein, mon gars. Il y a ça aussi. Donc, évidemment, tout le monde ne peut pas se mettre à prêcher ça, là. Parce que ça pourrait jurer. Beaucoup de vieux garçons au Québec, tu sais. Enfin, je sais pas. J'ai évidemment pas réponse à tout. Là.
Admettons, on prend pour acquis que la natalité ne repartira pas à la hausse, ou du moins pas de façon significative, ce qui veut dire que le vieillissement de la population est non seulement un fait, mais je veux dire, c'est un aboutissement inévitable. Et la réponse à ce constat est toujours « Ah ben, il faut plus d'immigration. » Jamais « Ah ben, peut-être qu'on devrait peut-être ajuster la société et se préparer au vieillissement au lieu d'essayer de l'inverser par une immigration qui, elle aussi, va tôt ou tard s'arrêter, tout simplement parce que les pays du Sud, eux aussi, leur taux de natalité chute drastiquement. On parle de l'Amérique latine, mais l'Amérique latine était connue pour être une pépine, si on veut, à enfants. Et aujourd'hui, on voit que les taux de natalité chutent en bas du taux de remplacement, qui est à peu près 2,2 enfants par femme en moyenne. Ce qui veut dire que bientôt, il y aura simplement plus assez de force vitale, si je peux dire, à aspirer. Et donc, on ne pourra pas éviter la chose, mais on en parle comme si c'était... on n'en parle pas. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne parle pas de cette solution qui serait peut-être de gérer le déclin démographique en espérant que tout le temps, on atteigne un certain équilibre qui va être difficile à atteindre dans le sens où tant que ton taux de fertilité n'atteint pas le 2,2 enfants par femme, ben oui, tu vas décliner, mais je veux dire, le monde entier va décliner. Hein. Je pense que les prédictions les plus alarmistes, si je peux dire, prédisent qu'on devrait... La population mondiale devrait atteindre le 9, peut-être 10 milliards, si on est chanceux, d'ici quoi, 2030, 2040, 2050, je veux dire, et retomber à 4 milliards début du 22e siècle. Ça pourrait très bien changer d'ici là, on s'entend.
C'est un discours qui complètement... c'est tout le contraire de ce qu'on entend, évidemment, chez les écologistes. C'est-à-dire, eux, on ne parle que de surpopulation et finalement, des gens comme toi, comme vous, comme Elon Musk, disent « Non, non, nous, on est très inquiets.
» Merci de me comparer à Elon Musk, c'est très flatteur.
Ben oui. Donc, c'est drôle parce que c'est complètement en contre-courant de ce qu'on entend. Ça, d'abord, il faudrait peut-être le dire quelque part. Libre Média serait une bonne place pour faire ça. Je le répète, le Québec, évidemment, est intégré à l'Occident, un pays occidental qui a les mêmes problèmes. Mais mon impression pour connaître l'Espagne, la France, c'est que c'est amplifié. C'est amplifié au Québec. C'est un peu plus fort, voire beaucoup plus fort. Et le rapport à la vie, on a vraiment sombré plus qu'ailleurs, je pense, dans le matérialisme. Et la gauche nous parlait de ça, du matérialisme. Ouais, au Québec, on est super matérialiste. Là. Je ne sais pas si les Québécois s'imaginent qu'ils sont moins matérialistes que les Américains. Franchement, c'est juste que vous allez vous contenter du Honda Civic à la place de la Ferrari, mais vous êtes autant, sinon plus, matérialiste. Là. C'est tout ce qu'on appelle les choses de la maison. Les mobiliers de jardin qu'il faudrait renouveler chaque année. T'sais, les gens n'ont absolument rien à foutre.
Ouais, la petite ici, vie. Ouais.
Je ne suis pas contre les mobiliers de jardin, mais trouvez-vous une passion autre que la randonnée pédestre et le renouvellement du mobilier de jardin, s'il vous plaît. Là. Et quand vous aurez d'autres intérêts, peut-être qu'il se passera quelque chose d'intéressant ici. Mais d'ici là, il y a beaucoup de chemin à faire.
Avant qu'on se quitte, je veux absolument qu'on parle de l'univers médiatique québécois. Vous avez un rôle particulier, disons-le comme ça, au sein de celui-ci. Vous avez de l'expérience internationale en ce qui a trait à l'univers médiatique, ou aux médias en général, là, je devrais dire. Quelle est votre analyse de l'univers médiatique québécois? Vous l'avez critiqué, là, je devrais dire, très ouvertement et très sévèrement durant la pandémie, depuis aussi. Je crois que vous avez une critique acerbe. C'est pas une insulte venant de moi. Mais comment voyez-vous la chose au Québec en termes d'univers médiatique?
Ben, j'en reviens au même point. C'est-à-dire c'est la même chose qu'on observe en Occident, mais pire. Les Français, souvent, se reconnaissent dans ce que je veux dire du système médiatique québécois. Mais je le rappelle souvent, non, mais c'est pire. En France, il y a encore quand même plus de places où on peut s'exprimer librement ou presque librement. Quand qu'au Québec, où vraiment on baigne dans une consanguinité intellectuelle et idéologique vraiment alarmante. C'est dû à plusieurs facteurs, évidemment toute la culture des subventions, le conformisme, la moutonnerie, très, très ancrée, évidemment. Parce que c'est comme si la menace culturelle faisait en sorte qu'il fallait être solidaire et du groupe. Être solidaire du groupe, c'est jamais s'en écarter, jamais... Jamais s'élever finalement par rapport à lui. Quand on dit qu'on est nivelé par le bas, donc on est toujours ramené vers le bas, on est toujours tiré vers le bas. Mais c'est ça, c'est inquiétant. On l'a vu durant la pandémie, c'est pas normal qu'il y ait eu 2, 3 ou 5 personnalités publiques qui aient véritablement critiqué la gestion de la crise sanitaire sur 8,5 millions de Québécois. C'est quelque chose d'absolument, c'est pas du, peut-être du jamais vu. Je ne sais même pas si c'est possible en Union soviétique, honnêtement. Imaginez, là, on était combien de chroniqueurs à critiquer ouvertement et fermement la gestion de la crise sanitaire. À part Radio X, on parle de 2 ou 3 animateurs qui sont dans la politique, d'autres sont plutôt en divertissement. On était 5, là. C'est absolument normal et absolument troublant. Et que Québécois n'a pas joué le rôle qu'il aurait dû jouer avec ses chroniqueurs dits de droite. Ça n'a pas été... je pense que c'est un mauvais choix aussi éditorial de Québécois. Parce qu'il en paye le prix. Il en paye le prix longtemps. Sur le plan de la crédibilité, ce qui s'est passé à Québécois durant 2 ans, je pense que ça va les suivre longtemps. Puis c'est pas parce que je suis dans un microcosme. C'est-à-dire, je comprends que moi, j'ai un public qui est hostile aux mesures sanitaires. Là. Mais je pense pas que ce soit parce que je vois pas ailleurs. Là. Je pense qu'il y a des journalistes qui ont perdu beaucoup de crédibilité en appuyant ce point-là, le gouvernement. C'est-à-dire, il y allait même au-delà, en fait, du gouvernement. C'est-à-dire, les journalistes, quand pour critiquer le gouvernement, en fait, ils leur demandaient pourquoi vous n'allez pas plus loin? Pourquoi vous êtes plus sévère? C'était ça, les questions, quand on vous laisse monter critique. Donc, finalement, on faisait toujours des passes à palette au gouvernement. Non, ça va rester. En même temps, bon, moi, c'est une chance. Soyons clairs, j'ai un média qui a la chance, lui, d'occuper l'espace qui est tout à fait vacant. Donc, moi, d'une perspective d'affaires et éditoriale, c'est une occasion en or, soyons très honnêtes. On a un espace qui est devant nous, qui est à prendre. Et ça fait tout à fait notre affaire dans ce sens-là, mais comme dans une perspective sociologique, je déplore tout de même le fait qu'il y ait une sorte d'unanimisme, mais aussi cette fixation sur les faits divers, ce qu'on appelle les grands enjeux, Vraiment, le Québec est de plus en plus tourné vers lui-même, vers des histoires, des anecdotes, à des chiens, des chats prédateurs à Rock Forest. Tu sais, il y a vraiment des perles incroyables qui sortent semaine après semaine. Et il faut, ça serait le temps d'élever le niveau. Là. Socialement, c'est important. Là. C'est, si on veut s'élever comme société, ça nous prend des médias qui s'intéressent aux véritables grands enjeux, qui nous connectent avec les autres parties de la planète, qui nous intègrent au système international véritablement. Sinon, on va rester ce que j'appelle la société chalet dont on parlait tantôt. Société de repli périphérique qui est une vraiment en marge de l'histoire, en marge du continent, en marge de tout.
Et quelle réception est-ce que Libre Média a pu avoir chez vos contacts dans l'univers médiatique québécois? Est-ce que ça a été bien reçu, mal reçu? Est-ce que ça a été associé aux radios de Québec? On sait qu'à Montréal, ça a une mauvaise réputation. Comment est-ce que la chose est vue?
On ne sait pas. On feint de nous ignorer. Mm-hmm. On fait comme si on n'existait pas, mais tout le monde nous regarde, on le sait. Puis même des fois, on reprend des intervenants qu'on a interrogés. Je l'ai même vu en Argentine, là. Où Radio-Canada a repris mon intervenante en Argentine, qui n'était pas... c'est correct, là. Je suis très content que Mme Perrault soit interrogée par Radio-Can. Mais on est observé par des acteurs du système médiatique québécois, mais qui feignent de nous ignorer parce qu'on est évidemment vu comme un concurrent. Peut-être un concurrent aussi, qui serait un peu... idéologiquement incorrect. Donc, forcément, au Québec, et puis en Occident, on connaît la chanson. Donc, à partir du moment où vous êtes dans le mauvais camp, entre guillemets, donc on est un peu comme, c'est ça, pas un peu tabou, là, mais je trouve qu'il y a un peu d'hypocrisie dans le sens où c'est là que les médias sont très peu solidaires. Il y a peu, on parle de solidarité au Québec. On lance Libre Média, aucun article de grands médias québécois fait état qu'il y a un nouveau média au Québec, c'est quand même. Alors qu'en France, c'est courant. Là. C'est-à-dire quand le média, par exemple, Factuel est né, qui ressemble, le modèle ressemble un peu à Libre Média, Factuel à Paris, il y en a d'autres, il y en a plusieurs. Il y a une constellation de médias indépendants qui ont émergé dans les deux dernières années. Donc, il y a vraiment un nouveau marché. Et par exemple, Le Point, Le Figaro va faire état que oui, il y a un nouveau média qui s'appelle Factuel qui est né, donc on va interroger le rédacteur en chef, puis Le Devoir là-bas, Le Point, mettons, il va parler. Non, Québec, c'est 0-0. C'est-tu parce que je suis diabolisé à ce point-là, je croirais pas. Là, faut peut-être, mais c'est vraiment. Ça, c'est très décevant. C'est dans le fond, les grands médias parlent de nous. Quand ils vont parler de nous, c'est parce qu'on va faire un mauvais coup dans leur perspective. Quand on parle de moi au Québec, c'est toujours Blanchet-Gravel était avec les médias russes. Donc là, ils ont sorti son devoir à la presse quand est arrivée la guerre en Ukraine. Oh, mais c'est parce que j'ai sorti beaucoup de livres récemment. J'ai un parcours quand même. Non. On parle de toi, de vous, quand vous avez, selon eux, fait un mauvais coup. Mais quand vous rayonnez, non. Donc, en général, je m'attends pas à grand-chose, honnêtement, de nos... faut dire qu'on leur tape dessus aussi avec grand plaisir.
C'est mutuel.
D'eux. On se moque d'eux beaucoup. Moi, je me moque beaucoup des grands médias. Donc, je ne m'attends pas non plus à être récompensé par eux. Là. Je ne pense pas que je vais être nommé personnalité de l'année par Le Devoir. Là. Ça m'étonnerait beaucoup. je ne pense pas que François Legault va partager mon livre. C'est des affaires de même. T'sais. C'est sûr que c'est des choix aussi, puis c'est des vocations. Mais je ne m'attends à rien. Je ne m'attends pas grand-chose de nos collègues. Malheureusement, j'ai du respect pour plusieurs d'entre eux, mais... le Québec, ça reste un petit petit. Les gens se protègent leur petit terrain, installent leur clôture. Puis, mais sur certains, on est observé. On le sent, on le voit, et des fois, ça déteint sur certains d'entre eux. À force de se moquer de leurs grands enjeux, peut-être bien qu'un jour, ils vont se tourner vers des vrais grands enjeux, peut-être.
Oui, tout à fait. Jérôme Blanchet-Gravel, on peut se procurer vos livres « Un Québécois à Mexico » et « Crise sanitaire, régime sanitariste » dans toutes les bonnes librairies. Bien sûr, on peut aller à libremedia.com, libremedia avec un trait d'union. Est-ce que vous avez d'autres plateformes sur lesquelles on peut vous trouver à Twitter peut-être ou X maintenant?
Oui, sur X. Retrouvez-moi sur X et retrouvez Libremedia sur X également. Facebook, non, pas en ce moment, pas au Québec.
YouTube?
Oui, bien sûr, YouTube, 30 000 abonnés, on vient de franchir le cap. Ça marche assez bien.
Parfait, mot de la fin?
Merci beaucoup, merci de l'invitation et j'espère, Philippe, que votre podcast va connaître un grand succès.
Merci beaucoup.
Dès les prochaines semaines.
Oui. Merci beaucoup. À la prochaine.
Merci. Merci, bye.